c'est l'heure de la chronique de Serge Bradet. Serge, vous allez commencer par nous raconter l'histoire, l'origine du CD et du DVD.
Exactement, oui. Alors, c'est deux auteurs, Karen Jégot et Victor Batadjian, de la revue Historia de quand ça date. Alors, de petits disques aux reflets hérissés vont révolutionner le monde des loisirs. Apparus dans les années 1990 en France, ils sont devenus aujourd'hui interactifs. En 1979, Philips et Sony Corporation décident de s'associer pour mettre au point le CD, compact disc. Pour cela, les ingénieurs se basent sur la technologie du disque optique breveté en 1961 par David Paul Gregg. Ce dernier a l'idée de créer un nouveau format audio et vidéo via un disque en plastique en rotation traversé par un faisceau de lumière concentré. Alors, pour mener à bien ce projet, Philips prend en charge la conception du CD et Sony le format utilisé pour numériser le son. Les premiers prototypes de Philips mesurent 115 mm de diamètre pour une capacité de 60 minutes. Mais, devant l'assistance d'un grand chef d'orchestre, que je vais vous nommer tout à l'heure, peut-être que vous allez, Daniel va sûrement avoir le nom, mais aussi de l'épouse du PDG de Sony, grande fan de musique classique, un format de 100 mm avec une capacité de 74 minutes est privilégié, permettant ainsi de contenir la version la plus longue de la 9e symphonie de Beethoven.
Ah.
Et le chef d'orchestre, c'est...
Je me souviens pas. Ah, mais le chef d'orchestre, oui. Ou le compositeur, le chef, non, je me souviens pas.
Ah oui, c'est Karajan, Herbert von Karajan.
Okay. Ah
oui. On l'avait appelé, on lui a dit, écoutez, c'est quoi la plus longue, la durée de la plus longue œuvre symphonique?
C'était 74 minutes.
Et c'était la 9e symphonie de Beethoven.
Ouais.
Alors, en 1982, les deux premiers albums CD font leur apparition dans les bacs. Il s'agit de la symphonie alpestre de Richard Strauss et de The Visitors du groupe ABBA. Daniel connaît le groupe ABBA.
Tout le monde connaît le groupe ABBA.
Mais pas moi.
Ah,
Je connais le nom. Mais le CD, en raison de sa grande qualité sonore, est vite catalogué comme produit réservé aux mélomanes classiques. Et le public le boude. Il faut attendre la sortie de, attention, Brothers in Arms, de Dire Straits.
Dire Straits.
Bon, merci. Oui. Je savais que je le prononçais pas comme il faut.
Quel bel album.
Qui se vendra à plus d'un million d'exemplaires. Pour que le compact disque se démocratise. Et en 1984, nouvelle innovation, le CD est modifié afin d'accueillir, en plus du son, le stockage de données numériques. C'est le fun parce que Daniel approuve.
Oui, c'est vrai.
J'ai la toune de Dire Straits en tête, Mark Knopfler.
Le DVD, Digital Video, Dice or Digital Versatile Disc, quant à lui...
Pardon me, oui.
Digital Virtual Disc.
Versatile Disc. Quant à lui, né à l'hiver 1995 à l'initiative de Warren Leberfarb, patron de Warner Home Video. Dans les années 90, le marché de la VHS fait grise mine. Elle commence à baisser un peu. Pour remédier à ça...
Grise mine? OK.
Qu'ils disent ici. Une revue française, hein?
Pique du nez, ça.
Grismine?
Ben, je sais pas. Ça veut
ah,
dire
ben, Grismine, que... oui, ça, ouais. ça fait...
Ça commence à...
Pique, là. Ça commence à faire pitié, à avoir de la misère, là.
OK.
Grismine, oui. Pardon-moi. Pour remédier à la faible qualité de ce support et à ses ventes en baisse, Warren Leberfarb lance le projet Taz, en référence au personnage de dessin animé, afin que tous les acteurs du monde de la vidéo s'accordent sur un même nouveau support de diffusion. Parce que vous savez, il y a eu le VHS puis le bêta. Hein? Alors, c'est ça. On ne voulait pas recréer ça, je pense. En 1994, les 7 plus grands studios américains rédigent une wish list indiquant leurs attentes
une
en wish la matière.
Une wish list.
Ah, hey,
c'est
oui,
français.
Ah, c'est français, ça.
Traducteur!
Indiquant leurs attentes en la matière. C'est-à-dire un support pouvant contenir un film d'au moins 135 minutes avec un doublage en 8 langues, une haute qualité de son et d'image. Alors, Warner, Toshiba et Philips Sony se lancent dans la course. Ta-da-ta-tam! Le DVD pouvant être utile à la fois pour la vidéo et le stockage de données, le patron de Warner cherche à rallier à sa cause le monde de l'informatique. Pas bête. Il y parvient finalement, après des négociations, à la suite d'une projection privée du film « Le Fugitif » avec Harrison Ford en février 1995. Pour éviter que deux supports non compatibles sortent sur le marché, Warner menace d'intenter un procès à Philips et Sony pour violation des lois antitrust. Après moult remous, Warner Toshiba remporte la partie. Les premiers lecteurs DVD sont vendus en France début 1998, probablement les mêmes dates au Québec, là. Désormais, on peut voir avec une meilleure définition les premiers films français distribués en DVD. Les premiers, ça a été Léon de Luc Besson et l'autre Microcosmos de Claude Nuride de Sani et Marie Perrenou.
Je connais pas.
Et voilà, moi non plus, pas ces deux-là, non. Je connais le premier, par exemple, Léon de Luc Besson.
Ben, oui. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du premier CD que vous avez acheté ou écouté?
Mon Dieu, je pense.
J'imagine que c'était classique.
Oui, vous ne trompez pas, là, en affirmant ça. Je pense que c'était la deuxième version de La Norma de Maria Callas qu'elle a fait en 59 ou 60.
Ah oui, ça devait.
Moi, j'adore cet opéra-là.
Est-ce que vous aviez trouvé une différence avec le son, si vous comparez le son avec un disque vinyle?
Oui, évidemment, le disque vinyle finit par égratignures,
ouais,
tout ça.
Pétiller,
Oui, il y a une clarté. Par contre, certains experts diront que c'est plus froid, le CD.
Ouais. Ça dépend. Il faut toujours faire attention à ce qu'on compare une super bonne table tournante avec un lecteur de CD moins de qualité. Donc, il faut faire attention.
Oui, c'est ça. Ouais.
Daniel, en 5 secondes?
En 5 secondes, je ne me souviens pas. J'ai tellement de CD, je ne me souviens pas le premier.
Harmonium.
Isabelle?
Cranberries. C'était très tard pour les CD, mais moi, j'avais pas.
Et moi, c'était Money de Pink Floyd. On reste en onde. Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et oui, avec tout le monde. Hein. Il y a Daniel qui est en studio, Serge en studio, puis Isabelle qui est loin, mais qui est avec nous quand même, hein, Isabelle?
Oui.
Mais oui, je vous ai un peu coupé la parole. Vous disiez quoi à propos de Cranberries?
Ben moi, c'est mon premier CD que j'ai acheté, c'est les Cranberries, No Need to Argue. Parce qu'avant ça, j'écoutais des cassettes que mon ami qui possédait une grande quantité de CD m'enregistrait.
Ah, d'accord. Cranberries, hein, ça, c'est encore bon. Mais la chanteuse n'est plus.
Non, c'est triste, mais il y a une petite nostalgie maintenant quand j'écoute ça.
C'est sûr. Alors, allons-y donc avec maintenant l'origine de quelque chose d'autre, le GPS.
GPS, oui.
Ça veut dire quoi, GPS?
Je pense que c'est Global
Positioning System.
Ah, ouais.
C'est le Global.
Mathieu, demande-les, je l'ai.
Ah, oui,
merci.
L'encyclopédie tout connaître, une chance qu'on l'a.
Le petit génie.
L'encyclopédie tout Mathieu.
Oui. Alors, où suis-je, où vais-je? C'est le titre de l'article pour le GPS. Perdu en race campagne? Pas de panique. Vous avez plus d'une très grande quantité de satellites sont placés en orbite autour de la Terre et viennent depuis 1995 à votre secours pour vous sortir de ce mauvais pas. Au début, on a lancé, c'était 28 satellites. Évidemment, avec le temps, là, il y en a depuis 2012, là, on n'arrête pas de lancer des satellites. Le géopositionnement par satellite GPS est issu d'un projet mis au point en 1973 par le gouvernement de la défense américaine.
Ah, ça fait plus de 50 ans.
Oui, à la demande du président Nixon. Le concept et la création de ce système reviennent à Ivan A. Getting. Le principe est simple. Un groupe de satellites en orbite autour de la Terre émettent des micro-ondes perçues par des récepteurs GPS qui déterminent ainsi une position choisie. Alors, pour Getting, ces satellites doivent être des phares dans le ciel guidant toute l'humanité. Belle phrase, hein? Le premier est lancé en 1978 par une fusée Delta 4. Le dernier a mis en orbite en 1993 pour les essais, là. Et le système GPS est déclaré totalement opérationnel en 1995 avec un total de 28 satellites en orbite, 24 titulaires et 4 en réserve en cas de dysfonctionnement, de panne. Onéreux, il coûte à l'époque, en 2012, chaque année, près de 750 millions de dollars.
500 quoi?
750 millions de dollars pour son entretien et développement au gouvernement américain.
Oui.
Donc, c'est...
Ça des bidous?
Ça doit être rendu dans le milliard aujourd'hui. Hein? Le système GPS est créé et utilisé à l'origine par les militaires, leur permettant de localiser précisément les cibles, guider les missiles et mieux larguer les bombes dans le camp ennemi. Me permet de dire que c'est ce qu'on voit actuellement avec en Israël et
en
Iran, là, même avec Gaza. En septembre 1983, toujours sur fond de guerre froide, vous rappelez le vol 007 de la Korean Airlines qui a été abattu au-dessus de la Russie, à ce que les pilotes s'étaient égarés. il n'y avait pas de GPS. Alors, l'avion a été abattu et tout le monde est décédé. Et ça a été, ben, le président, c'est durant le règne du président Reagan, qui a proposé alors que le GPS soit désormais accessible aux civils, ainsi que afin que ce type de catastrophe soit évité. Alors, le système GPS dispose encore d'un accès sélectif. Sa précision est limitée à 100 mètres pour ceux qui ne font pas partie de l'armée américaine. Cette restriction est levée début mai 2000 par le président Bill Clinton. Alors, je ne sais pas si on l'a changé ça, mais en tout cas, ça date de 2000. Des technologies semblables au GPS sont mises au point par d'autres pays. Le GLONASS en Russie, lancé dans les années 1980. Le COMPASS ou Beidou en Chine, initié en 2000. Et le système Galileo en Europe, qui est opérationnel depuis 2014. Alors, l'usage du GPS s'est répandu et le succès commercial est au rendez-vous. Il est utilisé aujourd'hui dans les domaines maritimes, aériens et routiers. Il sert dans les missions de sauvetage, de reconnaissance et dans la recherche. Sur le plan scientifique, il permet, entre autres, d'étudier les mouvements des plaques. Sur celui des loisirs, ben, c'est l'outil idéal du randonneur. Hein? Le randonneur pédestre, le cyclotouriste ou plus largement répandu, l'automobiliste, qu'est-ce qu'on ferait sans GPS aujourd'hui quand on vous invite à aller en quelque part ou que vous décidez d'aller
quand ça
ne
vous tente pas de vous perdre.
Oui, exactement, oui.
Parce qu'en vacances, ça peut être le fun aussi.
Oui, absolument.
On découvre plein de choses.
Oui. Totalement démocratisé, le prix est maintenant assez accessible. En fait, maintenant, il est dans presque tous les téléphones. Vous avez un téléphone, là, vous avez le GPS automatiquement. Vous mettez Google Maps, je pense, puis vous entrez. Et c'est d'une simplicité enfantine.
L'affaire est dans le sac.
Oui, oui.
Dans le téléphone.
oui. Alors, les cartes routières sont désormais reléguées. Conclusion, les cartes routières sont désormais reléguées au fond de la boîte à gants. Quand avez-vous consulté une carte routière pour la dernière fois?
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Ouais. Ben, on l'a sur le...
Jamais ça.
Quand on regarde
aussi,
sur le... Ouais. Notre ordinateur nous le donne. Vous avez une carte, vous avez des cartes, mais on voit jamais ça. On dit au GPS, tu m'amènes là.
Mais jamais ça, ouvrir une carte pour vrai, puis voir l'ensemble.
Ouais,
parce que souvent, on a juste une petite partie avec les GPS.
C'est une autre expérience.
Ouais, ce qui était moins drôle, c'était de replier la carte.
Oui. Ouais, c'est ça.
Un jeu de patience.